Les premières choses qu'on a vraiment essayé de lui apprendre, c'est déjà les parties du corps pour qu'il puisse les nommer. Et puis mâle, bobo et tout, ça c'est vrai que c'est un gros truc quand même.
C'est surtout la vitesse à laquelle ils apprennent et la vitesse à laquelle ils comprennent les choses. Ça, c'est déstabilisant. C'est parce que même s'ils ne sont pas toujours capables de créer des phrases complètes, ils comprennent quand même très vite les situations. Et c'est ça qui est le plus surprenant.
Vu que c'est un premier enfant, déjà, tu ne sais vraiment pas à quoi t'attendre en fin de compte. Tu suis juste tout ce que tu peux lire sur Internet ou dans les livres.
Quand ton enfant pleure et que tu ne sais pas du tout, t'as l'impression d'avoir tout essayé, t'as envie d'avoir la réponse, quoi, le truc. Allez, un sésame, là, aujourd'hui, je veux un joker pour savoir si c'est le ventre, les pieds, la tête, les dents.
Parfois, si, quand tu sais qu'il a mal, mais tu sais pas où, là, c'est compliqué. Là, tu t'aimerais bien qu'il parle. Et ça, c'est très, très frustrant.
Mais en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il y a plein de pleurs différents. T'as le pleur de froid, le pleur de peur, le pleur de soif, le pleur de sommeil. Et c'est pas du tout la même chose. Alors, c'est des couinements au lieu des grincements. C'est pas très agréable, mais tu arrives à identifier, en fait.
Mais il y a des moments où tu pètes les plombs, en fait, clairement. Ah,
bonjour à tous, bonjour à toutes. Il ne faut jamais hésiter à questionner les lieux communs, à mettre en doute les phrases qu'on entend tout le temps. En voici une. Les enfants sont des éponges. Je comprends la métaphore, merci. L'idée que les enfants s'imprègnent de ce qu'ils ressentent autour d'eux, notamment les émotions des adultes. Mais je n'aime pas cette image, parce que pour moi, une éponge, c'est un peu idiot. À cause de Bob l'éponge, personnage de dessin animé, drôle et très sympathique, mais pas vraiment futé. Intéressons-nous plutôt aux capacités cérébrales des tout-petits, au fonctionnement de leur cerveau. Les jeunes parents, souvent, aimeraient savoir ce qui se passe dans la tête de leur nouveau-né pour mieux communiquer avec lui, pour le comprendre et se faire comprendre. On va tâcher de les aider cette semaine, de vous aider avec des réponses de spécialistes. Au programme également, des conseils de livres pour enfants signés Denis Chessou. Ce sera L'as-tu lu mon petit loup autour de 15h50. C'est parti, une plongée dans le cerveau des bébés.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Une émission en partenariat avec Bayard Jeunesse, préparée par Margot Page, réalisée par Christophe Imbert avec Benjamin Troncin à la technique. Et je vous présente mes deux invités qui sont deux spécialistes des bébés. L'un est en duplex de Rennes grâce aux équipes de France Bleu Armorique. Bonjour Benoît Le Guadec.
Bonjour.
Vous êtes sage-femme, auteur chez First Edition de deux livres à destination des pères, Bientôt Papa et Papa Débutant. Il faut peut-être préciser d'emblée, Benoît Le Guadec, que vous êtes bien sage-femme. Hein. Le nom de ce métier ne change pas en fonction du genre de celui qui l'exerce.
Non, on peut aussi dire mailloticien, mais j'aime bien le mot sage-femme qui porte toute l'histoire en fait du métier et qui a précédé la science. Et moi, je me fais donc appeler sage-femme.
Voilà, le sage-femme, c'est celui qui sait, qui est sage sur le sujet des femmes.
C'est ça.
Est-ce que vous confirmez, Benoît Le Guadec, que la plupart des jeunes parents aimeraient avoir une fiche pratique ou même un interprète bilingue pour comprendre leur bébé?
Je pense qu'en tout cas, ils sont tous dans l'interrogation de se dire s'ils y arriveront et que par moment, oui, ils aimeraient bien comprendre davantage. Et c'est là où je les rassure que c'est parce qu'ils ne comprennent pas tout qu'ils arriveront à grandir ensemble.
Voilà, il faut parfois accepter de ne pas comprendre. C'est une première réponse qu'on peut apporter. Mon autre invité est avec moi dans ce studio. Bonjour Ghislaine Dehaene.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes pédiatre, neuroscientifique, chercheuse au CNRS, spécialisée dans l'étude des fonctions cognitives de l'enfant. Vous travaillez à Neurospin, qui est un centre de recherche pour l'innovation en imagerie cérébrale basé à Saclay. Est-ce que vous parlez couramment la langue des bébés?
Oh bah parfaitement.
Oui.
Non, c'est beaucoup plus difficile que ça. Et en fait, des fois aussi, les bébés savent pas ce qu'ils disent. Par exemple, quand les parents tout à l'heure disaient « je ne sais pas interpréter les pleurs du bébé », mais des fois, le bébé juste se sent inconfortable et pas capable de dire, enfin même si on avait le moyen de comprendre, de dire « j'ai mal aux pieds » ou « j'ai mal à la tête ». Il se sent pas bien, c'est tout.
C'est la grande question de votre vie de chercheuse. Que se passe-t-il dans la tête des bébés?
Exactement. Et on a eu un grand développement ces dernières années avec l'imagerie cérébrale qui nous permet d'aller voir directement le cerveau des bébés, de les voir réagir à des images, réagir à des sons et de voir qu'en fait, ils ont déjà un cerveau complexe, une pensée complexe et donc des capacités de compréhension bien supérieures à leur capacité de production. Donc c'est pour ça qu'au moment où ils produisent, ils nous étonnent parce qu'en fait, ils ont déjà au moins un an de travail sur l'environnement.
Vous faites partie, Ghislaine Dehaene, de la commission des 1000 jours. Les experts et expertes qui ont insisté récemment sur l'importance des 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. Vous, ça fait très longtemps que vous vous intéressez à ce sujet. Est-ce que vous sauriez dire d'où vient cette curiosité pour le cerveau des bébés?
En fait, j'ai travaillé en néonatologie et donc on réanime parfois des très jeunes enfants et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'ils sont prêts à arriver dans cet environnement? Est-ce qu'on est nocif par exemple dans un environnement de réanimation avec toutes ces lumières, tous ces bruits? Est-ce qu'il faudrait mieux diminuer les bruits? D'ailleurs, il y a eu une étude comme ça où on pensait effectivement que les alarmes dans ces centres de réanimation étaient très intrusives pour les bébés, les incubateurs sont très bruyants, donc on les a mis dans des pièces très très calmes. Trop calme, puisque aussi l'absence de son, l'absence de bruit, l'absence de parole est aussi délétère. Donc en fait, il y a plein de choses qu'on fait à l'hôpital et on ne sait pas pourquoi on les fait, si on fait bien, si on ne fait pas bien. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis intéressée un petit peu, est-ce qu'il y a un moyen de savoir?
Voilà, c'est par la pédiatrie que vous êtes arrivée aux neurosciences.
Par la pédiatrie, exactement.
Voilà, dans cette émission, on a l'habitude de donner la parole à des enfants, mais sur ce sujet précis, les bébés, c'est assez compliqué. Alors exceptionnellement, vous l'avez entendu, notre reporter a tendu son micro à des parents pour savoir notamment s'ils parlent avec leur nouveau-né. On les écoute dans un instant, ce sera juste après Stromae sur France Inter. C'est le grand retour du chanteur belge, 7 ans après son précédent album.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire. Toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi la fête tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Bonne manière, pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez. Mieux vaut ne pas si frottez. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Barbatruc se penche sur le cerveau des tout-petits cette semaine avec la pédiatre et chercheuse en neurosciences Ghislaine Dehaene et avec le sage-femme Benoît Le Guédec. Alors comme promis, la parole est aux parents. Première question, parlez-vous avec votre bébé?
On s'est toujours dit qu'il fallait lui parler le plus normalement possible parce que c'est de naturel quand même, cette histoire de langage, ça nous vient à tous. Peut-être pas pour se rassurer, mais parce qu'on a besoin, quoi. C'est comme les fourmis avec les fourmis hormones là, ou je sais pas quoi, faut qu'elles se disent des trucs tout le temps.
Alors moi je me forçais un petit peu parce qu'on sait que ça aide à ce qu'ils nous comprennent, à faire. Mais c'est vrai qu'on se trouve un peu bête au début quand on n'est pas à cajoler, à babiller, à expliquer ce qu'on est en train de faire. Donc moi je me forçais, toi c'était peut-être plus...
Moi c'était un peu plus naturel, mais c'est vrai qu'on est quand même influencé par le fait qu'on a entendu qu'il fallait parler aux enfants. Mais ça me semblait assez naturel dès sa naissance, de lui parler, de lui expliquer ce que je faisais, parce qu'on on sent quand même qu'il nous regarde, donc on sent qu'il réagit à la voix, qu'il réagit à ce qu'on chante, ce qu'on lui dit. C'est aussi une façon de se découvrir et de créer une relation avec lui, quoi.
Alors moi j'explique tout ce que je fais, vraiment tout. Donc là on va mettre ton pyjama, donc j'enlève les bras, attention, tu vas avoir un peu froid mais c'est pas grave, ça va pas durer. Là je mets le t-shirt, attention la tête. Et vraiment je racontais tout ce que je faisais, ça devait être très chiant. Mais du coup je me disais que c'est comme ça qu'ils captaient ce qui se passait, qu'elles n'étaient pas prises au dépourvu de « ah ben attends, on m'enlève mon fut, on m'a pas prévenu ». Et puis qu'elles acquéraient du vocabulaire comme ça petit à petit.
Par exemple des mots assez simples style de l'eau ou la voiture. Il va dire abolo et acature. Enfin, c'est des trucs qui sont vraiment loin, loin de la base de phonétique du mot, quoi. Et du coup, c'est vrai que parfois, on peut avoir tendance à dire pour qu'ils reconnaissent l'objet acature, alors que pas du tout, en fait. Enfin, faudrait continuer à dire la voiture, quoi.
Ce qui est drôle, c'est les mots où elles inversent les consonnes. Alors la compote qui devient la pocotte. La biscotte qui devient bitoc et tout, ça c'est rigolo. C'est-à-dire, elle dit gâture, elle dit cagature pour une couverture. En fait, au bout d'un moment, ils associent des mots à des actes ou à des objets. Et j'imagine c'est comme ça que ça se fait petit à petit.
Ouais, ouais, j'ai l'impression qu'au plus on lui parle, au plus il s'enrichit. C'est sûr. On pense qu'ils sont trop petits pour comprendre certaines choses. Mais y a des trucs, par exemple, quand on est à bout de nerfs ou quand on est ultra fatigué ou malade ou des choses comme ça, on est capable. Enfin, nous en tout cas, on l'a déjà fait plusieurs fois. Et j'ai noté vraiment qu'il y avait une vraie différence quand on lui parlait et qu'on lui disait « Écoute, là, je ne peux plus, par contre. Je ne peux plus supporter parce que j'ai ça, parce que maman, elle est malade, parce qu'elle est très fatiguée. » Et ben vraiment, on voyait qu'il y avait quand même un vrai changement dans son comportement. Après, il est capable de comprendre. Ils sont vraiment capables d'empathie, je pense. Même tout petit, ils sont capables de comprendre si tu es à bout de nerfs, si tu vas craquer ou pas, quoi.
Des propos recueillis par notre reporter Juliette Proutot à Nantes et à Paris. Benoît Le Guédec, je rappelle que vous êtes sage-femme. Alors on sent bien que beaucoup de ses parents ont entendu dire qu'il fallait parler à leur bébé. Ça peut pourtant être un peu gênant parfois, on se sent un peu bête à parler à un tout petit enfant.
Quand c'est utilisé assez spontanément avec ou un commentaire de ce que l'on fait ou simplement dans l'échange... Ça se passe assez bien et c'est assez simple. Quand on se force à dire quelque chose alors qu'on n'est pas prêt, qu'on n'a pas envie ou que c'est pas ce qui nous convient, eh bien, c'est un peu plus difficile. Parce que tout le monde oublie aussi que dans la relation bébé, le langage, il est multiple, il n'est pas que verbal. Beaucoup de parents sont pas, à la naissance, suffisamment disponibles à eux-mêmes, en fait, parce qu'ils ont eu un vécu difficile, parce qu'il y a de l'angoisse, parce qu'il y a un épisode dépressif et que tant qu'ils sont pas tellement disponible à eux-mêmes, il est très difficile d'être disponible à l'autre. Et moi, je sais que mon premier travail pour essayer d'aider les parents à comprendre l'enfant ou à communiquer, c'est déjà de les accompagner, eux, pour qu'ils soient bien, pour pouvoir créer un temps d'observation, de patience attentive à leur bébé précocement né. Et c'est vrai que c'est compliqué au début.
Les observer, bien les regarder pour pouvoir communiquer avec eux. La neuroscience en la matière a beaucoup à nous apprendre, Ghislaine Dehaene. Pourquoi est-il recommandé de parler au bébé ?
Alors, je voudrais quand même revenir aussi sur ce qu'ont dit les parents. C'est pas forcément parler, c'est, je dirais, plus dialoguer. C'est ce que disait aussi Benoît. C'est-à-dire, c'est l'échange entre l'enfant et le parent. Donc, au départ, évidemment, ça va pas être des grands discours. Ça va être simplement de reprendre les vocalises ou simplement de babiller avec lui. Et d'ailleurs, souvent, on pense que le bébé imite les parents et souvent, c'est les parents qui imitent les bébés dans ce genre d'échange. Et ça, c'est ça qui est très important. C'est cette mise en place de ce duo. Et comme dit Benoît, il n'y a pas que le langage verbal. Les enfants interprètent nos attitudes, interprètent notre contact oculaire, interprètent nos émotions. Donc c'est un ensemble de signes de communication qui sont importants.
Mais vous voyez où je veux en venir, on se dit spontanément que l'enfant ne comprend pas ce qu'on lui dit lorsqu'il a une semaine, par exemple. Et pourtant, il y a cette idée de lui expliquer, de lui parler, de lui dire les choses.
Oui, mais je pense que parfois c'est un petit peu excessif de tout lui raconter, mais c'est important aussi de l'avertir, de lui expliquer ce qui se passe effectivement. Mais ce qu'on voit nous en imagerie par exemple, ces réseaux qui nous servent au langage, qui sont dans le côté gauche du cerveau chez l'adulte, en fait on voit exactement les mêmes réseaux au tout départ. Donc en fait c'est une organisation du cerveau humain qui va lui permettre de parler et de communiquer. Et ça c'est présent dès le départ. On a cru très longtemps, vous parliez de l'éponge tout à l'heure, qu'effectivement on déversait dans le bébé, on déversait dans l'enfant toutes nos connaissances, pas du tout. Ce qu'on voit maintenant, on théorise plutôt le bébé comme un scientifique, c'est-à-dire il a des idées sur le monde, il a des idées sur ses parents, il a des idées sur la langue, et il va les vérifier en permanence. Donc en parlant, par exemple, en babillant, et à ce moment-là, il s'aperçoit que la personne en face de lui ne vocalise pas tout à fait de la même façon. Donc il va adapter sa vocalisation, par exemple, pour être de plus en plus en phase avec les AEI que fait ses parents. Donc ça lui apprend les sons de sa langue maternelle. Parce que toutes les langues utilisent un répertoire de sons différents. En français, vous n'avez pas le « the » anglais, les Anglais n'ont pas le « u » français. Et donc il y a ce fameuse aussi image des Japonais qui n'entendent pas la différence entre « r » et « l », on dit « honorable ami ». Et les bébés, au départ, n'ont pas de problème à entendre la différence entre « r » et « l ». Ils peuvent apprendre le japonais s'ils naissent au Japon, ou apprendre le français s'ils naissent en France. Et donc ils vont le perdre au fur et à mesure de la première année de vie, parce qu'ils vont commencer à répéter, ils vont voir que ça ne sert pas, cette différence va disparaître. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres sons comme ça qui disparaissent au fur et à mesure des essais de l'enfant.
À partir de quel âge l'enfant peut-il distinguer une langue, Ghislaine Dehaene ?
À la naissance.
Dès la naissance.
Ah oui, si c'est deux langues très différentes.
Ce sont vos études qui l'ont prouvé.
Nos études qu'on a faites il y a déjà 30 ans. Donc si on faisait écouter à des petits bébés français du français et du russe, qui sont deux langues mélodiquement très différentes, les bébés à la naissance savent faire la différence.
Donc ça veut dire qu'ils l'ont entendu dans le ventre de leur mère.
Ils l'ont entendu dans le ventre de leur mère. Ils reconnaissent la voix de la maman à la naissance. Ils savent faire. Alors là, c'est plus facile de tester des prématurés que de tester des fœtus dans le ventre. Mais les petits prématurés qui sont à 6 mois de grossesse savent déjà faire la distinction entre deux syllabes comme ba et ga. Ce qui est très subtil, hein, parce que la différence entre be et ge, c'est les 40 premières millisecondes de la syllabe. Après, c'est pareil. Donc si vous les avez loupés, bah, vous entendez bla. Donc c'est la même chose. Et les bébés, les petits humains, sont très équipés pour entendre ces différences temporelles très subtiles. C'est une des caractéristiques de notre espèce par rapport à d'autres espèces animales. Évidemment, le langage est le moyen de communication de notre espèce. Donc on a évolué pour le percevoir.
Alors, parler à son bébé, c'est une chose, mais sur quel ton lui parler ?
Est-ce que c'est bien de parler au bébé en faisant «
Guidi, Guidi, comment il va le petit bébé, tu fais des bisous ?»
plutôt que de leur parler normalement ? Les bébés, on le sait, sont des personnes complètement incompétentes. Certes, ils sont capables de mâchouiller leurs propres pieds, ce qui mérite d'être salué. Mais à part cela, ils sont nuls. Nuls pour marcher, nuls pour dire des trucs, et même nuls pour manger. Et donc, intuitivement, on a tendance à parler aux bébés comme s'ils étaient bêtes. Par exemple, au lieu de dire « Bonjour Bertrand, est-ce que tu veux du lait ?» on va dire
« C'est pour qui le bon Lolo, hein ?» Ben c'est pour Bertrand !
Plusieurs études sur le terrain ont d'ailleurs montré que cette façon de parler au bébé se retrouve dans la plupart des cultures du monde.
Ah ben c'est pas grave !
Mais alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce que parler au bébé comme s'ils étaient bêtes, ça marche ? Eh bien probablement, entre autres selon les chercheurs, parce que quand on parle de cette façon un petit peu débile, on articule mieux. Et donc les bébés perçoivent mieux les mots que l'on prononce.
Extrait d'une chronique diffusée sur Arte dans l'émission 28 minutes. Cette pastille du facétieux David Castillo-Lopez s'appelle Intéressant. Alors il évoque ici des recherches menées aux États-Unis, Ghislaine Dehaene. Vos travaux à vous s'aventurent-ils sur ce terrain-là ? Comment parler au bébé ? Sur quel ton se fait-on mieux comprendre ?
Non mais il n'y a pas seulement des travaux aux États-Unis, un peu dans toutes les langues. Effectivement, on a tendance à accentuer la mélodie, à séparer mieux les mots aussi, parce que dans le langage habituel, il n'y a pas de pause entre les mots comme il y a du blanc dans la page écrite entre les mots. Donc il va falloir que le bébé, dans cette chaîne continue, arrive à en extraire les mots. Et d'articuler de façon ample, de faire des pauses, d'aller lentement, on lui facilite le travail. Mais même si on le faisait pas, ils apprendraient à parler quand même.
Benoît Le Guédec, il a raison, David Castillo-Lopez, c'est insupportable aussi cette manière de parler aux enfants comme s'ils étaient un peu débiles.
C'est dit comme ça, on pourrait le penser.
J'en rajoute après, un peu.
Après, c'est peut-être se mettre à son niveau,
ouais,
en fin de compte. Et justement, en s'adaptant à lui parce qu'on pense qu'il ne le comprend pas, on va nous aussi faire un effort pour le capter et lui, en réponse, nous entendre davantage. Moi, j'ai tendance à me dire, quand même, si on retrouve ça partout de façon universelle et assez réitérable, c'est qu'il y a quelque chose.
Une forme de sagesse mondiale, vous voulez dire.
Voilà.
Il y a certains parents, quand même, qui sont tentés par l'idée de parler normalement aux nourrissons. Benoît Louguédec.
Ben, ils parlent normalement aussi, c'est-à-dire qu'il y a différents moments quand, dans le jeu, quand ils veulent saisir, quand ils câlinent ou ils massent, enfin, il y a peut-être d'autres langages, et en même temps, ils accompagnent ça aussi avec du vocabulaire, c'est-à-dire que il y a parler normalement et la façon de parler. Moi, je vois quand même de moins en moins de gens qui vont dire, comme on entendait dans le reportage, le lolo pour le lait. Ils disent le lait, mais ils le disent pas forcément dans le même phrasé. Mais le vocabulaire est là, mais l'intonation, la façon de construire la phrase n'est pas le même. Et moi, je me surprends avec ma petite fille de le refaire, en fin de compte. Mais je prends les bons mots pour autant, les bons mots de ma langue, en fin de compte.
Ghislaine Dehaene, vous êtes d'accord là-dessus? Il vaut mieux employer les bons mots, notamment pour lui apprendre à parler.
Oui, oui, c'est mieux d'employer les bons mots, d'avoir un vocabulaire étendu, etc. Mais c'est, comme dit Benoît, c'est très important de réemployer les mots avec différentes intonations, à différentes places dans la phrase, parce que c'est comme ça que le bébé peut arriver à comprendre le sens d'un mot. Il ne peut pas aller voir dans un dictionnaire, un bébé. Donc, le deviner le sens d'un mot, ça vient à partir des différentes phrases qu'il a entendues et des différentes situations. Donc, il faut utiliser ces mots dans différentes situations, dans différentes façons de les prononcer, pour qu'il arrive à retrouver ce qui est un variant.
Et qui cherche le point commun, finalement.
Et qui cherche exactement le point commun. Et je voulais en revenir aussi sur cette histoire de... on décrit maintenant ce qu'on appelle un module pédagogique chez les humains. C'est-à-dire que les humains sont la seule espèce qui enseigne. On a déjà décrit que les chimpanzés avaient une culture, par exemple, pour taper sur les noix de coco et les ouvrir. Certains tribus de chimpanzés le font, d'autres ne font pas. Et les enfants apprennent en regardant les parents. Mais la mère n'a jamais ne ralenti, ne regarde si le bébé regarde pour lui montrer comment... casser la noix de coco.
Elle ne vérifie pas qu'il est en train d'apprendre.
Non. Alors que les humains, c'est ce qu'on fait en permanence. Dans ces situations de dialogue, on va ralentir, on va regarder effectivement si l'enfant est en train de regarder ce qu'on est en train de faire, et on va focaliser son attention sur ce qu'on est en train de faire. Donc on est en train de lui apprendre. Et ce qui est très intéressant aussi, ce qu'ont montré nos collègues, c'est que le bébé sait qu'à ce moment-là, on est en train de lui enseigner. C'est-à-dire que c'est vraiment un dialogue. Je t'enseigne, donc regarde, je te montre quelque chose, et le bébé dit, ah, on me montre quelque chose, je dois faire attention, et cette connaissance, il va falloir que je l'utilise dans d'autres situations. Donc c'est un petit peu à ça que servent ces moments d'échange, et de dialogue, et de focalisation. Ça permet au bébé de savoir, ça, je dois l'apprendre.
Voilà qui est précieux pour les parents qui nous écoutent, Ghislaine Dehaene. Il faut être présent à ce que l'on fait lorsqu'on montre quelque chose à un enfant très jeune.
Tout à fait. Il faut regarder s'il est en train de regarder. Et aussi, on le fait spontanément. On le fait même quand on parle ici. C'est-à-dire, je vais prendre une voix plus intonée, je vais commencer à lever les yeux, ce que font aussi les acteurs de théâtre quand ils surjouent. Mais c'est un petit peu ça, c'est surjouer pour l'enfant.
Dans le cerveau des bébés, c'est Barbatruc jusqu'à 16h.
Vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas lire, vous savez tout et bien pire, mais vous ne pouvez le dire. Moi, ce que j'avais compris, le rêve n'est pas fini quand le rêve est ça. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes. Et toi, tu regardes ton chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu dessines des bonhommes. Et toi, tu colles ton chewing-gum sur ma tête. Sur ma tête. Je sais qu'il existe une forêt oubliée, mais je ne sais pas par où passer. Je ne sais pas lire en toi, en toi.
Qui est bête?
Vous ne savez rien des migrants, des guerres civiles au Soudan, le Bataclan et Charlie, vous n'avez pas tout saisi. Ce que vous avez compris, le rêve n'est pas fini quand le soleil donne. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes. Et toi, tu parles avec un chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas ce que je vois. Ça met en joie, tu fais planer des bagnoles. Et toi, tu fais le rossignol dans ma tête. C'est la fête.
C'était Philippe Catherine sur France Inter. On essaye de comprendre comment fonctionne le cerveau du bébé dans Barbatruc cette semaine, notamment pour faciliter la communication entre parents et enfants. Je suis avec le sage-femme Benoît Le Guédec et la neuropédiatre Ghislaine Dehaene. Et si on utilisait nos mains, notre corps, notre visage pour communiquer avec les tout-petits? La langue des signes se développe depuis quelques années chez les professionnels de la petite enfance comme chez les parents. On est en ligne pour en parler avec Sophie Dolce. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous avez publié deux livres sur le sujet aux éditions First, signé avec son bébé et signé et chanté avec son bébé. L'idée, j'imagine, c'est de limiter la frustration du bébé qui ne peut pas encore parler.
Tout à fait. C'est vraiment dans l'idée de réduire les frustrations, les colères. Quand un enfant n'a pas encore accès au langage, ou pas suffisamment en tout cas, ne peut pas exprimer, par exemple, qu'il a trop chaud, ou qu'il a faim, qu'il a besoin d'un câlin. Donc avec ses petites mains, une fois que la motricité fine permettra du coup l'utilisation des signes, l'enfant pourra exprimer ses besoins et du coup tout sera apaisé au niveau familial. Et c'est autant pour l'enfant pour exprimer ses besoins que aussi pour le parent, parce que c'est toujours très difficile d'être dans la devinette, à se dire mais mince, je lui ai donné à manger, je lui ai donné à boire, il chouine toujours par exemple. Donc pourquoi? Et là, juste un petit geste avec ses mains et l'enfant pourra dire son besoin.
Alors c'est compliqué évidemment de décrire les gestes à la radio, mais quels sont les mots les plus fréquents, les plus utiles en tout cas dans votre cas personnel, Sophie Dolce?
Alors le signe encore, ça je pense que c'est un peu le hit des signes qui est vraiment utilisé normalement par...
Ghislaine Dehaene me le fait avec ses deux mains. Alors encore, c'est les doigts contre la paume de la main, c'est ça?
Exactement, donc une main verticale. Ouf. Et l'autre main, elle est le bout des doigts qui vient taper dans la paume de la main. Ça, c'est vraiment le vrai signe, on va dire, fini et bien élaboré. Par exemple, un tout petit va avoir beaucoup de mal à avoir cette coordination, donc il va peut-être tout simplement faire quelque chose qui ressemble à bravo pour faire le signe encore. Et petit à petit, sa motricité va se développer et s'affiner pour avoir le vrai signe. Mais en tant que parent, on le décode quand même assez rapidement en contexte.
Est-ce que c'est la même langue que celle qu'utilisent les personnes sourdes ou malentendantes?
On utilise les signes effectivement issus de la langue des signes française. On va juste rajouter un petit mot dans notre phrase, dans la phrase qu'on va dire à l'oral. Par exemple, dans la phrase « Je te sens fatigué, tu vas aller dormir », on va juste faire le signe « dormir ». Donc on va vraiment sélectionner le mot qu'on va vouloir signer.
Vous êtes comédienne, Sophie Dolce, directrice artistique de la compagnie Maya, qui propose des activités artistiques, et vous animez aussi donc des ateliers pour apprendre à signer avec les bébés. Est-ce que vous avez des exemples fréquents, récents, de communication qui seraient beaucoup plus fluides entre le bébé et ses parents? Est-ce que ça change vraiment les choses?
Oui, alors j'ai beaucoup de témoignages de parents suite aux ateliers, alors qui viennent parfois juste passer un bon moment, faire un atelier avec leur enfant, et voilà, qui vont mettre en place une petite comptine signée à la maison, ou des deux, trois petits signes au quotidien, comme changer la couche, ou biberon au tété, ou des choses comme ça. Et parfois, j'ai des parents qui me rappellent suite aux ateliers, qui me disent, mais en fait, notre enfant, il chouinait tout le temps, je sais pas, le matin, pour telle chose, et en fait, on a compris que c'était, alors soit parce que il était en situation d'inconfort avec sa couche, et que pour nous, il y avait rien dans la couche, il y avait trois gouttes, alors que pour l'enfant, c'était vraiment une situation très inconfortable. Donc voilà, l'enfant réussissait à faire le petit signe pour donner aux parents l'information de son inconfort, ou qu'il avait que son biberon était trop chaud. Et en fait, l'enfant avait vraiment intégré plein de signes durant l'atelier et les reproduisait ensuite à la maison.
On entend beaucoup dire que la langue des signes retarde l'apparition du langage chez le bébé, chez l'enfant. Est-ce que vous l'avez constaté?
Alors, au contraire, non, heureusement, on parle normalement à notre enfant et au contraire, on va lui donner encore plus d'attention.
On a fait en plus.
On va être encore plus avec lui, on va être en train de tenir une casserole et de préparer le dîner en même temps, on va être avec son téléphone en même temps, on va être vraiment à sa hauteur en le regardant et en lui parlant vraiment, avec une vraie présence, et faire un petit signe, voilà, de temps en temps. Donc, au contraire, on va encore plus détacher les mots, on va ralentir notre rythme, et c'est par cette attention-là que l'enfant, justement, va être, au contraire, même stimulé au niveau du langage. Après, c'est vraiment pas le but. On n'est vraiment pas dans la performance, mais au contraire dans le respect du rythme de l'enfant. Mais malgré tout ça, il peut y avoir effectivement, au contraire, un langage qui arrive même plus tôt. Et c'est vraiment un outil de tremplin pour l'acquisition du langage.
Merci beaucoup Sophie Dols, signée et chantée avec son bébé, c'est à lire chez First. Très bonne journée à vous, à bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Au revoir, et j'en profite pour signaler au sujet de la langue des signes le nouveau numéro du magazine Phosphore. Alors, c'est pour les beaucoup plus grands cette fois, un journal pour ados entre 14 et 17 ans qui propose un reportage en bande dessinée sur une lycéenne sourde. Elle s'appelle Océane, elle est élève de terminale et elle raconte son quotidien en classe et à la maison. Elle suit les cours avec des interprètes, il n'y en a pas pour tous les cours malheureusement. Océane explique à quel point le masque la gêne pour signer car la langue des signes passe aussi par les expressions du visage. Très beau reportage en BD. La lycéenne qui parlait avec les mains, c'est à la une de Phosphore du mois de novembre. Et je donne bien sûr la parole sur ce sujet à Ghislaine Dehaene. Quel est votre regard sur ce moyen de communication, la langue des signes avec les bébés?
Pour parler, il faut dominer 70 muscles, les coordonner pour arriver à parler correctement, ce qu'un bébé peut pas faire très rapidement. Donc il est vrai que lui donner quelques petits signes peut l'aider, puisqu'on sait que sa compréhension est en avance, on sait qu'il comprend, disons, une cinquantaine de mots déjà à un an, mais qu'il n'arrive pas à les dire, donc ça l'aide, effectivement.
Phénomène de mode ou pas?
Alors phénomène de mode parce que de toute façon les bébés vont parler, mais je pense que c'est si les parents aiment ça, il y a pas au contraire, comme le soulignait votre interlocutrice, c'est un moyen d'échanger, c'est un moyen de aussi pour le bébé de se faire comprendre puisqu'on sait qu'il est capable de penser, donc allons-y.
Benoît Le Guédec, je rappelle que vous êtes sage-femme, vous conseillez aussi la langue des signes entre parents et bébés?
Alors moi je découvre ça récemment. Je suis assez ébahi de la réponse des enfants. Et oui, j'en informe. Je ne sais pas si je conseille ou j'oriente, mais en tout cas, j'informe de cette possibilité d'un autre langage associé au langage verbal. Mais je découvre aussi ça de façon très personnelle. Et je vois que ma petite fille d'un an, quand je la garde de temps en temps et qu'elle m'exprime quelque chose et que je ne comprends pas, eh ben elle fait un signe en se disant peut-être il va me comprendre si je fais ça.
Il est un peu nul, je vais en rajouter parents. Pour qu'il comprenne mieux. Voilà.
Mais oui, c'est ça, c'est étonnant, ce qui m'éclaire pas toujours d'ailleurs.
Être à ce qu'on fait quand on communique avec le bébé. Ghislaine Dehaene, que se passe-t-il quand on interrompt momentanément une interaction avec son bébé, par exemple parce qu'on a reçu un message sur son
téléphone?
Alors
là, ça c'est le grand problème des smartphones, c'est-à-dire que ce qui a été montré par des études, c'est que si vous êtes en train d'échanger avec votre enfant pour lui apprendre un nouveau mot par exemple, et tout d'un coup vous vous arrêtez, non seulement vous arrêtez la communication, ce qui est désagréable pour le bébé, mais en plus il ne va pas se souvenir de ce que vous étiez en train de faire quand vous allez revenir. Donc en fait vous avez deux effets délétères, deux effets nocifs. Le premier, c'est que ce n'est pas très sympa d'arrêter quand vous êtes en train d'échanger avec quelqu'un parce que celui se sent abandonné quelque part, enfin. Et puis d'autre part, il va perdre ce qu'il était en train d'apprendre.
On entend beaucoup parler des ravages des écrans sur les enfants, ça ne passe pas forcément par les canaux qu'on imagine.
Je pense que c'est surtout les ravages des écrans sur les parents qui, du coup, utilisent l'écran comme un moyen de garde ou comme étant... c'est-à-dire, eux sont trop souvent interrompus par les échanges sur les notifications de mails, les SMS, etc. Et donc, interrompent trop souvent leur relation avec l'autre.
Mais c'est vrai qu'on ne s'imagine pas à quel point ça peut être néfaste et mettre l'enfant dans une situation de détresse. Hein. C'est vraiment le mot que vous employez.
Si en plus, il ne comprend pas ce qui se passe, ça, c'est des très vieilles études où le bébé était en train d'échanger et tout d'un coup, le parent figeait son expression. Et on voyait le bébé à ce moment-là essayer d'interagir, il ne se passait rien, continuer à interagir et à la fin pleurait. Donc c'est une vraie expérience désagréable pour le bébé.
Barbatruc, France Inter avec Dorothée Barba.
Moi je me souviens bien vraiment plus des premières semaines en fait, enfin des toutes premières semaines, au sens dans les trois premiers mois à peu près. Je me souviens d'une fois où je le changeais et il y avait toujours cette espèce de... Voilà, c'est un peu une sorte d'insecte qui bouge dans tous les sens. Il faut essayer de faire les bons gestes pour bien le nettoyer. Et il y a eu une fois, je me souviens, c'était la première fois où hop, il s'est capté sur moi, il m'a regardé, il a souri. Et là, je me suis dit, ah mais oui, on a une relation, quoi. On a une vraie relation. C'est la première fois, c'était vraiment chou, quoi.
Moi, je pense que c'était la première fois qu'on le présentait à des amis ou de la famille et qu'il se retournait vers nous parce qu'il était intimidé.
Assez tôt, c'est à travers le regard surtout qu'on comprenait qu'il réagissait à certains mots, à certaines choses, le biberon, le ne fais pas ci, mais plus de la parole.
Après, c'est quand même assez émouvant la première fois où il fait quelque chose en réaction à ce qu'on lui dit. Parce qu'effectivement, on lui parle depuis qu'il est né, on lui raconte beaucoup de choses sans se préoccuper de savoir s'il comprend ou pas. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'est la première fois, enfin, tous les jours depuis qu'il porte des chaussures. Je lui disais, on retire les chaussures. Et il y a un jour où, pour la première fois, il a retiré ses chaussures lui-même. Et là, on comprend que ce qu'on lui dit depuis plus d'un an, parce que je pense que c'était un petit peu après un an, il le comprend et ça engendre une réaction chez lui, quoi.
Bon, il braillait, il pleurait, etc. La sage-femme est là, elle l'embarque, elle part dans un coin, elle le nettoie, elle le couche. J'ai l'impression qu'elle, on dirait qu'elle est en train de le manufacturer presque. C'est assez brutal. Il crie, elle vient vers moi, elle dit ouais, tenez, c'est votre bébé. Et je le récupère dans mes bras. Et à ce moment-là, boum, il s'arrête de pleurer. Il ouvre grand les yeux comme ça, il regarde, il me regarde, il regarde sa mère. Et je lui dis, bah voilà, ça commence.
Voilà, notre reporter Juliette Proutot a interrogé les jeunes parents qu'elle a rencontrés sur les premières fois qui les ont marqués dans leur vie de père ou de mère. Et ce qui revient beaucoup, on l'a entendu, Ghislaine Dehaene, c'est le regard, le contact visuel.
On a un peu les mêmes expériences quand les parents viennent dans le laboratoire. Parce que c'est pareil, nous on veut la réaction du bébé. Donc on peut pas que les parents agissent et on les amène à regarder leur bébé. Et ils sont toujours éberlués en pensant, ah, un bébé de 2 mois, il est capable de comprendre ce que vous êtes en train de lui faire, de comprendre qu'il y a une voix anglaise ou une voix française, ou qu'une bouche qui s'ouvre doit faire un A et pas un I. Et ils sont aussi éberlués par les compétences de leur bébé. Et donc je pense que ça, c'est très important. Alors le regard aussi, cette façon dont on entre en contact, qui était aussi très humaine, c'est-à-dire que par exemple chez les singes, on ne se regarde pas, on doit, le mâle dominant regarde les autres doivent baisser les yeux. Donc cette espèce de contact oculaire qui nous permet de dire attention, maintenant je vais te dire quelque chose qui est important, c'est vraiment très spécifique à notre espèce, c'est très important pour notre cognition sociale. Nous sommes une espèce très 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 sociale, on dit toujours le loup est un loup pour l'homme, c'est pas vrai du tout, nous apprenons grâce aux autres, ça nous évite de redécouvrir à chaque génération, puisqu'on bénéficie des connaissances des générations précédentes, et ça passe beaucoup par le langage, on l'a vu, mais aussi par le regard, par cette façon dont on a de se mettre tous les deux ensemble.
Et ça, c'est déculpabilisant pour les parents qui auraient éventuellement des difficultés à parler beaucoup à leur bébé, oui, les regarder, ça aide, c'est important aussi.
C'est important, et c'est important de construire ensemble. Évidemment, un jeune parent ne va pas savoir d'emblée quoi faire, et le bébé non plus, il ne sait pas quoi faire. Vous êtes deux, un couple en fait, parent-enfant, qui va se mettre en route progressivement, qui va trouver ses marques, chacun va s'adapter à l'autre. Tous les bébés ne sont pas faciles non plus, hein. Je veux dire, il y a des bébés qui sont hyper mignons, il y en a d'autres qui ont un peu plus de caractère. Eh bien, il va falloir que chacun s'adapte à l'autre. Et c'est ce dialogue qui peut être verbal, mais pas seulement, comme on l'a dit depuis le départ, il y a tout, il y a les attitudes, il y a le chant, il y a le rythme, mais c'est cette façon de laisser, de reconnaître que l'enfant est un individu face à soi, de le regarder, de réagir à ce qu'il a fait, il va réagir à ce qu'on a fait, etc., etc. C'est un vrai pas de deux, en fait, qu'il faut arriver à créer.
Benoît Le Guédec, vous insistez auprès des parents que vous rencontrez dans votre travail de sage-femme sur cette importance du contact visuel ?
Oui, oui. Et même c'est pour nous un objet de dépistage des troubles et des épisodes dépressifs quand justement la mère ou le père ne peuvent pas soutenir ce regard du bébé qui va les chercher. La vision la plus nette, le pontum proximum de la vision à la naissance, c'est à peu près 30 cm. C'est vraiment des bras de la mère, du sein de la mère au regard de la mère. Et on voit que c'est qu'il va chercher ça, ce regard d'âme à âme presque, en fait, où il va s'y ancrer et que ça va être source vraiment de confiance et de capacité, en fait, aussi d'abandon de soi dans la relation à l'autre. Et le regard, c'est vraiment quelque chose auquel on va parler et que nous, on va observer vraiment dans la relation précoce, quand on fait les visites postnatales à la maison, quand on est un petit peu à distance, comment il va y avoir cette capacité de s'ancrer dans les yeux de l'autre sans le fuir, en fait. Donc c'est vraiment très important.
Allez, avant de poursuivre nos échanges sur les bébés, j'ai un truc à vous conseiller, piocher dans ma boîte à idées Barbatruc, un podcast qui est délicieux, drôle et intelligent à mettre entre les oreilles des enfants à partir de 5 ans. Ça s'appelle Bestiole et ça raconte des histoires d'animaux.
Le lézard est allé se planquer entre les pierres d'une vieille maison. Comme le soleil se couche, il cherche un endroit tranquille pour aller dormir. La tombée de la nuit est un moment trouble pour le lézard, car il n'aime que la chaleur et le soleil. Il ne peut pas lézarder tranquillement.
J'aimerais bien pouvoir lézarder, comme tu dis. C'est tellement bon de se prélasser au soleil. Ça recharge mes batteries. Je referai ça l'an prochain. L'automne est arrivé. Il est temps pour moi de trouver un endroit protégé et calme pour hiberner. Mais là, je peux pas, avec ce stroboscope qui m'empêche de dormir. Tu ne vois pas la lumière qui clignote comme des néons publicitaires? On se croirait sous le feu d'artifice du 14 juillet.
Ce n'est qu'une luciole, hein. Il faut bien qu'elle se déplace pour chercher sa nourriture.
Mais elle le fait exprès ou quoi de balancer sa lumière vers moi?
Cesse de bouger dans tous les sens, elle va finir par partir. On dirait que tu danses le hip-hop.
Bestiole, idéal notamment pour les trajets en voiture. C'est un podcast original France Inter créé avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, des histoires racontées par Denis Chessou et Brigitte Lecordier, qui est une grande comédienne spécialisée dans le doublage. Elle est célèbre notamment pour avoir prêté sa voix à Oui Oui et à Sangoku. On apprend plein de choses sur les animaux dans Bestiole et chaque épisode se termine par une question, avec une pause pour laisser aux enfants le temps d'y répondre. Je vous dis pas la joie quand ils ont la bonne réponse. L'épisode dont on vient d'entendre un extrait, Le Lézard et la Luciole, a été écrit par l'épatante Suzy Morgenstern, qui était notre invitée récemment. Chaque épisode dure une quinzaine de minutes. Vous trouverez des histoires de limaces, de baleines, de sardines, de méduses et de lombrics. J'aime beaucoup l'épisode du lombric écrit par Marie Desplechin. Bestiole, podcast à retrouver sur le site et sur l'application France Inter. Hey.
Hey.
I'm so defensive, there are things over there that I do not know about. Yeah, I'm so defensive, I get caught up in the modern day, the fishing net that's pulling at my feet. I'm so defensive, I got bongos thumping in my chest, and something tells me they don't be for me. Got that long hair, long beard, turtleneck sweater. You've got short hair, short beard. Nothing feels better than me and you and me and me. I'm so defensive. I got boobies on my booty. I got feelings in my feelings. I got violets on my violets. Yeah. I'm so defensive. I got fire in my fire. I got whiskey in my shower. Got my dancing feet on play. I got long hair.
Une chanteuse californienne choisie par notre programmateur musical Jean-Baptiste Audibert, c'était Rémi Wolf sur France Inter. Ghislaine Dehaene, neuroscientifique spécialiste du bébé, et Benoît Le Guédec, sage-femme, sont les invités de Barbatruc. Ghislaine Dehaene, j'aimerais vous demander s'il y a une idée reçue en particulier sur le bébé à laquelle vous aimeriez tordre le cou aujourd'hui.
On a vu là pendant toute cette émission que le bébé était capable, avait beaucoup de compétences dès le départ. Mais à l'inverse, on a un peu l'impression que si les parents font pas bien, tout est raté. Non, tout se joue pas avant 3 ans. Le cerveau apprend. Le cerveau apprend à 3 jours, à 3 mois, à 3 ans, à 33 ans, etc. Donc, vous, parents, ne vous affolez pas. Vous faites le mieux possible. Votre bébé a une vraie personnalité. Il va réagir à ce que vous faites. C'est normal, comme vous réagissez par rapport à d'autres personnes. C'est une interaction entre eux. Vous, parents, et le bébé, mais il ne se laisse pas faire non plus.
Donc, le bébé est une vraie personne.
Le bébé est une personne, on l'a dit il y a 30 ans, c'est toujours vrai.
Benoît Le Guédec, et vous, l'idée reçue qui vous agace le plus sur les bébés?
Ça serait « il ne comprend pas ». Enfin, je sais pas, faire tomber l'idée de la réussite performance, que plus on fait des choses avec lui, plus il sera intelligent ou compétent. Enfin, simplement vivre ensemble, en fait.
Exactement.
Alors, puisque nous avions de jeunes parents sous la main, ou plutôt à portée de micro, Juliette Proutot en a profité pour lancer un réseau d'entraide, si j'ose dire. On leur a demandé s'ils avaient des conseils pour les autres parents qui nous écoutent. Ça peut toujours servir.
Le conseil, moi, que je donnerais, c'est quand même... Quand tu t'adresses à ton enfant, d'être sûr de ce que tu lui dis, de pas douter de toi, parce que ça, l'enfant, déjà, il le sait direct. Si tu doutes, c'est mort.
Moi, les conseils que je donnerais, c'est peut-être se foutre un peu la paix aussi à soi-même, parce que c'est vrai que quand t'as un enfant, en tout cas un premier enfant, aujourd'hui, avec tous les conseils qu'on donne, toute la psychologie, tout ce qui est bon de faire, tout ce qu'avec le recul, on s'est rendu compte que c'était pas bon de faire. Et en fait, il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ah, tu fais ça comme ça, toi ? » Ben ouais, c'est chaud. Enfin, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Et puis, ben, en fait, oui, t'as mille façons d'éduquer un enfant. Après, tant que c'est fait avec bienveillance, t'essayes de faire ce que tu peux, en fait.
Moi, j'ai un truc que je vois par rapport à nos autres amis qui ont des enfants du même âge. Je fais souvent, et je trouve que ça marche pas mal... Je fais un peu exprès de pas m'en occuper. Je sais pas comment dire. Je suis pas tout le temps en train de regarder ou d'être dans une attention vis-à-vis d'eux. Et je trouve que ça leur donne une distance qui les rend assez autonomes et pas tout le temps dans la demande. Je vois, il y a beaucoup d'enfants de mes amis qui s'en occupent beaucoup, qui sont des meilleurs parents que moi, du coup, de l'extérieur. J'ai envie de dire, non mais c'est vrai. Ils sont tout le temps en train de leur donner une activité à faire. Du coup, les enfants sont ultra en demande et ils sont malheureux de ça, quoi, de cette espèce de tension.
Il y a un truc fascinant. Je l'ai lu dans un bouquin d'Isabelle Filioza, où elle expliquait en gros que les enfants, avant un certain âge, je ne sais plus lequel, ils ne comprennent pas la négation. Donc si tu leur dis « ne traverse pas la route », ils entendent « traverse route » et ils traversent la route. Si tu dis « reste à côté de moi », ils restent à côté de toi. Donc en fait, il faut arrêter de dire aux enfants ce qu'ils ne doivent pas faire, il faut juste leur dire ce qu'ils doivent faire. Et dans le même genre, toujours Isabelle Filioza, qui est je trouve formidable, bah, je ne sais pas, tu dois rentrer de chez la nounou, et il y a 20 minutes de marche jusqu'à la maison, et ta gamine, elle s'arrête, elle regarde chaque caillou, chaque escargot, chaque fleur, et t'en peux plus, et tu dis, mais c'est hyper long, faut qu'on aille au parc, allez, faut qu'on aille au parc pour jouer. Et là, tu dis, mais non, mais en fait, là, elle est en train de jouer, et elle kiffe. Et peut-être qu'on va mettre une heure à rentrer, et on n'ira pas au parc, et elle aura kiffé, et c'est elle qui aura choisi, et il n'y aura pas d'horaire. Et voilà, et ça, c'est pas une communication, mais en tout cas, c'est une manière de se mettre au rythme de l'enfant, et de pas lui imposer des espèces d'obligations qui ne servent à rien.
Voilà, merci à ces jeunes parents pour leurs conseils à leurs congénères. Excellent mantra, Ghislaine Dehaene, foutez-vous la paix ?
Exactement, je suis tout à fait d'accord avec cette maman.
Cette idée de s'en occuper le moins possible, on a bien compris le propos, mais ça peut paraître un peu déconcertant.
Oui, mais de donner une autonomie. En fait, il faut penser que le bébé, c'est comme vous. Des fois, vous voulez être tranquille, vous voulez pas qu'il y ait quelqu'un toujours sur votre dos. Ben, c'est un peu la même chose. Pensez que c'est une vraie personne en face de vous.
Benoît Le Guédec.
Oui, je suis d'accord. Moi, je parle de la relative distance, c'est-à-dire de ce juste milieu où faut pas toujours être en relation à vouloir faire quelque chose avec l'autre, parce que l'autre, il peut en avoir marre, l'autre, il va décrocher, l'autre, il va s'agiter même, en fait. Et là, ça donne un espace aussi à l'enfant pour, ouf, se retrouver lui aussi, et puis rompre un petit peu avec cette sollicitation qui ne doit pas forcément être permanente, sinon, comme nous, d'un moment, on décroche. Donc, oui, il y a ce besoin aussi de pause pour lui, comme les parents, de temps à autre.
Voilà, j'aime bien l'idée de terminer sur ce slogan. Foutez-vous la paix, chers jeunes parents. Place à notre rendez-vous avec les livres pour enfants. À présent, Denis Chessou observe de près l'actualité de la littérature jeunesse. Voici ses conseils, une histoire de rébellion au cimetière aujourd'hui. Bonjour Denis.
Dorothée Barbaz sur France Inter. Là tu l'es, mon petit loup.
Oui, bonjour Dorothée, bonjour à tous. Je vous emmène au Japon avec Kumiai, le dragon et le bambou de Gilles Baume et Yukiro Noritake aux éditions Albin Michel Jeunesse et pour les 6-9 ans. C'est un cimetière à flanc de montagne à Hokkaido au Japon. Il regarde le port en contrebas.
Les tombes sont devenues orphelines car l'autoroute a coupé le lien.
Cette autoroute était la promesse de modernité du gouverneur qui, une fois élu, ordonna les travaux très très vite. Flot permanent de voitures, impossible de traverser.
Saori Yukamata ne peut slalomer pour le voir, lui parler, l'écouter, l'aimer.
Et de ses deux seuls draps, elle fait deux kakémonos. Elle mobilise une belle partie du village.
Une tour en bambou qui pliera, enjambera l'autoroute comme un pont et permettra les retrouvailles avec lui. Kyosuke, son mari.
Mais pas que lui. Une armée très informée de dragons noirs à la solde du gouverneur détruira le pont de bambou avant qu'il ne soit utilisé.
On n'entrave pas la marche du progrès.
Saori rayonne malgré tout et convoque ses amis sur l'autre chantier.
Union des pioches, un tunnel est creusé. Saori peut enfin retrouver son mari, qui lui prend les mains, qui la fait rougir.
En bon gardien de cimetière, il n'a pas abandonné son poste quand l'autoroute est apparue.
Il a veillé sur les statues, soigné les lotus du bassin, nourri les carpes sacrées, et la forêt l'a nourri à son tour.
Et les deux vieux amoureux se retrouvent.
Le chemin est revenu, de la mer à la montagne, de la forêt au village, pour toujours.
Joli récit choral entre modernité et tradition. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de résistance, d'une solidarité villageoise et d'une jolie ruse pour déjouer la course folle à la modernité.
Denis, vous parliez de retrouvailles avec son mari, mais pas seulement.
Oui, car c'est aussi l'histoire de liens durables et profonds entre générations, entre les anciens toujours vivants et leurs descendants. Donc, cet enthousiasme solidaire intergénérationnel, cette relation entre les morts, esprits et vivants, est formidablement traduite en images par la talentueuse Yukiko Noritake et la narration de Gilles Baume qui laisse aussi la place à l'imagination du jeune lecteur. Kumiai, le dragon et le bambou, Albin Michel Jeunesse, c'est pour les 6-9 ans. Amitié de Charlotte Zolotoff et Benjamin Chaud aux éditions Little Urban à partir de 5 ans.
J'avais une amie, une meilleure amie aux longs cheveux bruns.
Alors, complices de tous les jours, les journées aux côtés d'une amie sont toujours bien remplies.
Nous aimions nous promener dans les bois, cueillir des fleurs sauvages, patauger dans la rivière et caresser des pierres luisantes avant de rentrer à la maison.
Même les phénomènes les plus inquiétants deviennent de jolis souvenirs avec elle.
Quand l'orage grondait, nous écoutions la pluie cachée dans le grenier. Et après l'orage, nous sortions courir pieds nus dans l'herbe mouillée.
Mais parfois, les choses ne se déroulent pas comme on s'y attend.
Un jour, je l'ai appelée, mais elle n'était pas là.
Et la réalité peut se révéler brutale.
Je l'ai cherchée dans les bois, et je l'ai trouvée avec un autre ami. Il cueillait des fleurs sauvages, pataugeait dans la rivière, et caressait les pierres luisantes avant de rentrer à la maison.
Eh oui, cette réalité peut même avoir un arrière-goût de trahison.
Je les ai suivis, et je les ai vus sauter à la corde, rigoler, chanter des chansons que nous fredonnions ensemble.
Mais si la nuit, les rêves sont parfois trompeurs et font croire à de nouvelles rencontres, ils sont aussi moteurs d'espoir.
Je vais chercher cette nouvelle amie et quand je l'aurai trouvée, je me souviendrai de ma première amie, ma meilleure amie aux longs cheveux bruns. Peut-être qu'alors je n'aurai plus de chagrin.
Alors voilà un livre qui vient cueillir son lectorat de manière étonnante avec son implacable réalisme et sa mélancolie fataliste. Alors si le pluriel est dans le titre, amitié, c'est parce que l'album vient la colorer de toutes ses nuances.
Complice, fusionnelle, elle peut aussi avoir ses failles.
Décevoir, trahir et faire souffrir, mais aussi être fantasmée. Alors c'est un livre sur le chagrin qui vient donner toute sa force à l'amitié enfantine et légitimer, on va dire, ce sentiment de presque deuil profond ressenti après un abandon. Alors, le trait de Benjamin Chaud vient adoucir la tristesse en faisant leur arpenter ses héros dans une nature aux allures de refuge. Amitié aux éditions Little Urban, c'est à partir de 5 ans. Merci à Lucie Cosmala, Eric Oswald, Denis Chessou. Nous vous souhaitons de belles lectures.
Et tous les titres des livres conseillés sont bien sûr sur notre site internet. Nous approchons de la fin de Barbatruc. J'ai une dernière question à poser à mes deux invités, la neuroscientifique Ghislaine Dehaene et le sage-femme Benoît Le Guédec. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance, Ghislaine Dehaene.
Ah, je pense que c'est les tilleuls dans la cour de l'école à la fin de l'année scolaire. Ça sent la liberté, le soleil. Et en même temps, cette odeur très prononcée du tilleul, ça m'évoque toujours des souvenirs très intenses quand je les sens.
Vous qui connaissez si bien nos cerveaux, est-ce que vous confirmez que l'odorat a un pouvoir magique pour replonger dans le passé?
Oui, 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 mais il n'y a pas seulement l'odorat, la musique aussi, les nourritures, enfin tout, il y a beaucoup de choses. Notre mémoire est vraiment multimodale avec beaucoup de points d'accès.
Et vous, Benoît Le Guédec, quelle est l'odeur de votre enfance?
Moi, c'est les pulls et les cache-cols de ma mémé, en fait, où quand elle me lovait dedans, ça me redonnait toute la bienveillance et l'amour qu'on partageait. Et puis l'odeur des frites à la végétaline que j'aimais pas, mais que je savais quand j'arrivais chez elle qu'elle allait faire ça, que derrière, je pourrais être dans son cache-col, en fait.
Alors, un pull, un cache-col, des frites à la végétaline et du tilleul dans la cour de récré. Très jolies odeurs cette semaine qui rejoignent notre recette secrète du parfum de l'enfance. On l'élabore au fil des semaines. Bientôt papa et papa débutant, ce sont deux livres de Benoît Le Guédec à lire chez First Edition. Vous étiez en duplex depuis les studios de France Bleu Armorique que je remercie au passage à Rennes. Ghislaine Dehaene, je vous laisse retourner à vos recherches au laboratoire Neurospin à Saclay pour percer les mystères du cerveau des bébés. Grand merci à tous les deux.
Merci.
Merci. Bonne journée et à bientôt sur France Inter.